Voix du Vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Barra.
In accordance.
Conformément
à
la décision unanime,
nous
allons maintenant ratifier l'accord tripartite en choisissant Paris comme ville hôte des Jeux Olympiques 2024 et Los Angeles comme ville hôte des Jeux Olympiques 2028. Merci.
Merci
de...
Et oui, même s'il n'y avait plus de concurrents, le fait que le Comité international olympique ait confié l'organisation des Jeux olympiques d'été à la ville de Paris en 2024 est perçu comme une victoire. Faut-il s'en réjouir ? Est-ce que cette grande messe du sport mérite vraiment l'investissement colossal des 7 milliards d'euros annoncés ? Qui va en bénéficier ? Les JO de Paris seront d'un nouveau genre, nous promettons, les plus écolos de l'histoire. Alors ça veut dire quoi ? Bonjour Didier Lenaf.
Bonjour.
Vous êtes le président de Sansi Sport and Sustainability International, c'est une nouvelle ONG qui vient créer. Expliquez-nous en quelques mots de quoi il s'agit.
Mais en fait, les problématiques de développement durable sont rentrées dans le sport il y a une quinzaine d'années maintenant, et sont devenues de plus en plus prégnantes. Quand on est organisateur d'un grand événement sportif international, il y a des impacts en eau, en transport, en déchets, en énergie, etc. Et les organisateurs, les fédérations, les sponsors, les médias, un certain nombre d'acteurs ont commencé à réfléchir à comment essayer de rendre des copies un peu plus propres ou un peu plus vertes en matière d'événementiel sportif notamment. Et ces deux dernières années, il y a eu une accélération des réunions, dont plusieurs au siège du Comité international olympique, à Munich, etc., qui ont débouché sur la création de cette fédération internationale, donc qui s'appelle SANSI, Sport et Durabilité Internationale, donc en français, et qui donc rassemble tous ces acteurs du sport et bien au-delà, qui cherchent à faire en sorte que le sport, qui est bien plus sexy que la science, permette de faire passer des messages que la science n'est pas capable de faire passer.
Alors, cette association a été créée en mai dernier, elle a rassemblé pour son congrès inaugural 130 participants de 30 pays, qui venaient donc de tous les continents. Comment est-ce que vous réagissez, vous, au fait que Paris accueille le gigantisme donc des Jeux Olympiques d'été en 2024? Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle?
Alors, si vous m'aviez posé la question il y a 10 ans, je n'aurais pas eu la même réponse qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, j'avais une vision un petit peu manichéenne, c'est tout blanc ou tout noir, et donc forcément les gros événements sportifs internationaux, c'est tout noir. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas une lecture que j'ai aujourd'hui de l'importance qu'il y a de discuter avec les différents acteurs pour les faire évoluer dans leur pratique de manière plus ou moins marquée en fonction de qui sont ces acteurs. Des gros partenaires du CIO, ou une petite organisation d'un 10 km sur route locale. Ce sont deux univers très différents qu'on ne traite pas de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la condescendance ou des priorités. C'est simplement que les discours ne sont pas les mêmes. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à 10 ans, c'est qu'il y a eu les accords de Paris, le CIO a créé son agenda 2020. Il y a tout un tas de choses qui se sont passées qui font qu'aujourd'hui, plus personne ne peut omettre de parler d'environnement et de problématiques sociales dans le monde du sport, quels qu'en soient les échelons.
Oui, enfin, vous dites ça, je me souviens très bien qu'au moment des Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu en Russie, c'était les fameux Jeux Olympiques de Sochi, ça a été une catastrophe environnementale colossale.
Oui.
Ce sont les sursauts du XXe siècle?
On pourrait dire ça comme ça. Je dirais qu'on a de très très beaux exemples au cours des dernières organisations internationales des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. On a par exemple Pékin, qui sur le plan social était une catastrophe, puisque au pays où les droits de l'homme n'étaient pas respectés, on accueillait les Jeux Olympiques. N'empêche que sur le plan environnemental, Pékin a fait des choses extraordinaires.
Il n'y
a pas un pays au monde qui est capable d'arrêter toutes ses usines pendant le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques pour que les athlètes puissent respirer correctement. Juste un exemple, je ne sais plus combien de centaines de millions de plantes, de fleurs, d'arbres ont été plantés pendant cette période, le nombre de lignes de transport en commun qui ont été créées pendant cette période, etc., etc. Donc il y a eu des choses vraiment très très belles qui ont été faites. Londres en 2012, c'était d'un autre niveau. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans la candidature de Londres, c'est le fait qu'ils aient dépollué les friches industrielles qui étaient aux alentours du parc olympique pour en faire un parc dont les Londoniens profitent aujourd'hui. Donc c'est ce genre d'héritage qui nous intéresse en fait quand on a une lecture d'événements sportifs de grande ampleur. Maintenant, en ce qui concerne Paris, je ne sais pas si on rentre tout de suite dans le vif du sujet sur...
On va y revenir tout à l'heure.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai un sentiment qui est quand même pour plein de raisons qui est vraiment positif, voire très positif.
Bon, alors on reviendra en détail parce qu'en effet, on nous annonce comme quoi les Jeux Olympiques de Paris en 2024 seront les plus écolos de l'histoire des Jeux Olympiques. On verra un peu tout à l'heure pourquoi. Mais essayons d'abord de faire le bilan d'une édition. La France a déjà accueilli les Jeux Olympiques d'été deux fois. C'était en 1900 et en 1924 et d'hiver trois fois. En 1924, en 1968 à Grenoble et en 1992 à Albertville. La ville de Grenoble, donc dans le sud-est de la France, s'apprête à fêter son jubilé. Oui, ça fait 50 ans que les Jeux Olympiques ont totalement modifié le paysage de la ville. Clémentine Métainier est allée recueillir le ressenti des habitants sur cette période de leur histoire et sur ce qu'il en reste.
Pour les Grenoblois, Geneviève et Jean ne se présentent plus. Ils sont des figures incontournables du combat écologiste à Grenoble. Lui, fondateur de l'antenne locale des Amis de la Terre, elle, première femme écolo élue à la ville de Grenoble en 1977.
Bonjour.
Au début de l'année 68, à la veille de l'ouverture des 10e Jeux d'hiver à Grenoble, le mouvement écologiste n'existe pas en tant que tel, mais il se construit, notamment dans la critique des Jeux Olympiques.
Ce qui frappe lorsque l'on arrive à Grenoble, ce sont ces innombrables chantiers ouverts à chaque carrefour. Sur chaque boulevard, des monstres terrassiers raclent, emmagasinent, déversent, digèrent des tonnes et des tonnes de terre. Et plus personne aujourd'hui n'ose dire ils ne seront pas prêts en février 68.
On a découvert l'ampleur du barnum qui était en train de se mettre en place et on a dénoncé vigoureusement ce qui nous paraissait être l'exemple type de la marchandisation de la vie et du sport. Que c'était une immense machine spectaculaire marchande, c'est-à-dire une machine à faire du fric et à mettre en musique, à mettre en scène des compétitions dont l'intérêt sportif était bien moindre que l'intérêt financier pour ceux qui les organisaient. On a sorti un tract, ne plus être des esclaves réclamant leur propre esclavage, ceux pour qui le sérieux sordide du capital et la grande farce olympico-patriotique sont rentables. Les Jeux sont la forme la plus grotesquement spectaculaire du spectacle envahissant la vie quotidienne et remplaçant la vie même.
Donc là, le tract, vous l'avez sous les yeux, c'est du papier un peu jauni. Vous vous en souvenez, Geneviève, de la rédaction de ce tract ?
Oui, je m'en souviens très bien et je trouve que c'était bien ramassé tout ce qu'il y avait à dire.
La Renault de Grenoble.
50 ans plus tard, le temps n'a pas apaisé leurs remontrances. Mais Geneviève et Jean en conviennent. Sur le plan urbain, les JO furent une chance pour Grenoble. Pour l'historien et philosophe du sport, Alain Arvin-Béraud, ces Jeux donnèrent ses lettres de noblesse à la ville, la faisant devenir, aux yeux du monde, capitale des Alpes.
Grenoble dans les années 60, c'est une bourgade de province, certes qui est ville compagnon de la libération, mais dont la structure urbaine est très modeste. Et les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, c'est réservé à des stations. Et cette idée naît chez des pionniers qui ont envie de faire connaître leur sport et tout, et de faire connaître Grenoble, et qui est soutenu par Albert Michalon, qui est une très belle figure de la résistance, médecin, qui va être battu par Hubert Dubedoux, qui était contre les Jeux, et qui va organiser et réussir les Jeux. C'est eux qui vont penser l'aménagement de toute l'agglomération grenobloise pour faire de cette région-là vraiment un pôle de développement dynamique. Bon, il y a la croissance démographique qui fait un tabac à l'époque. C'est une des régions où il y a la plus forte croissance démographique. Donc, ils vont avoir l'intelligence de transformer l'essai olympique. Il y a eu une éclosion de talents et la modernité de Grenoble s'est révélée au moment des Jeux. Ça a été une conjonction. Grenoble s'est trouvé là au bon moment, à la bonne époque.
Dites-moi, les réalisations de Grenoble en font peut-être, c'est ce qu'on entend, la seconde capitale de la France, non ?
Oh, n'exagérons rien, pas d'esprit de clocher, mais tant que Grenoble fait un gros effort pour ses Jeux Olympiques et d'une façon générale pour son équipement à cette occasion-là.
Lorsque Grenoble apprend qu'elle est retenue par le CIO le 28 janvier 1964, elle a 4 ans pour faire des prouesses. La ville est totalement sous-équipée, faite pour 80 000 habitants, alors qu'elle en accueille plus de 300 000 à cette date. Mais le pari est réussi. Elle se dote d'une gare, d'un hôtel de ville, d'un hôtel de police, d'une maison de la culture ou encore de grands axes routiers. Tous sont créés pour l'occasion à l'aide d'une nombreuse main-d'œuvre étrangère. Bref, elle rattrape en 4 ans 40 ans de retard. Sans parler des nouveautés qui vont marquer l'histoire des JO, première retransmission télévisuelle internationale en couleur des épreuves, premier contrôle antidopage ou encore premier produit dérivé et naissance de la mascotte olympique Chousse. 50 ans plus tard, que reste-t-il de tout cela ? Olivier Cogne, historien et directeur du musée dauphinois de Grenoble, un service culturel du département de l'Isère, dresse un bilan mitigé.
Certains ont une vision encore aujourd'hui négative pour ceux qui ont connu cet événement, car très impactant sur le plan financier. C'est vrai qu'il l'a été, comme tous Jeux olympiques, et que ces Jeux vont avoir une grande envergure, mais que l'État a aussi mis sur la table d'importants moyens, qu'il y a une perception plus négative, effectivement, qui fait dire que ces Jeux ont eu des conséquences sur le plan financier, que les habitants de cette région l'ont porté pendant longtemps. Cet événement, on en souffert sur le plan financier, et que sur le plan de l'aménagement du territoire, il y aurait aussi à redire par rapport à ce qui a été réalisé, notamment sur le plan des infrastructures sportives, car c'est vrai que la plupart de ces équipements, pour certains, ont été délaissés et pour d'autres ont été sous-utilisés depuis ces Jeux Olympiques de Grenoble.
Je crois que c'est une des plus belles réalisations techniques qui ont été mises sur pied à l'occasion des Jeux Olympiques.
Donc c'est un tremplin de 90 mètres.
En effet, 50 ans plus tard, les traces olympiques ne témoignent pas du contraire. Un des exemples les plus emblématiques est le tremplin de saut à ski de 90 mètres, construit à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Rien ne prédestinait cette petite commune à 18 km de Grenoble à accueillir plus de 70 000 personnes lors d'une épreuve des Jeux Olympiques.
Voici, dominé par le massif des Trois Pucelles, voici Saint-Nizier-du-Moucherotte qui accueillera, en plus des spécialistes du saut, 70 000 spectateurs, des correspondants de presse, des radios et télé-reporters avec leur matériel complexe et fragile. Et il a fallu pour ce faire quelques mois seulement, quelques mois et 280 000 mètres cubes de terrassement, des milliers de mètres cubes de béton qu'on a dû au fur et à mesure de la construction réchauffer constamment à l'aide de résistances électriques.
Mais depuis, le tremplin a bien rejoint la liste des éléphants blancs, même si Franck Girard, le maire de Saint-Nizier, espère toujours pouvoir en tirer quelque chose.
Alors là, nous sommes juste devant la mairie de Saint-Nizier-du-Moucherotte. On a traversé la route et on voit dans les sapins le tremplin, donc vous le voyez quasiment de votre bureau.
On voit un tout petit bout du tremplin parce que la végétation a beaucoup envahi le site et on le voit plus comme on pouvait l'apercevoir il y a 15 ans. Mais effectivement, de mon bureau, je peux voir un petit bout du tremplin.
Vous pourriez me raconter un petit peu son histoire depuis ses origines ?
Le comité d'organisation des Jeux Olympiques à l'époque a décidé d'implanter donc les épreuves de saut à ski spéciales à Saint-Nizier pour une simple et bonne raison, c'est la vue que l'on a sur l'agglomération grenobloise. Alors aujourd'hui cette vue est un petit peu différente parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a beaucoup de végétation, donc c'est moins spectaculaire que ça ne l'était pendant les Jeux. Et après parce que le tremplin de Saint-Nizier n'a pas fonctionné que pendant les Jeux, il a aussi été utilisé jusqu'en 89 pour des compétitions diverses.
Et pour vous, c'est un fardeau ce tremplin, en tant que maire de Saint-Nizier, le fait qu'il soit là et que finalement plus rien ne soit fait avec ?
Un fardeau, c'est pas, je le qualifierais pas comme ça, parce que voilà, c'est un site qui est extrêmement visité aujourd'hui. C'est un édifice qui a été phare des Jeux Olympiques de 1968. Il a été à l'exposition universelle de New York. Donc voilà, on peut dire bien et bien de choses sur ce tremplin. Aujourd'hui, la commune de Saint-Nizier n'a pas les moyens de réhabiliter un site qui fait plus de 12 hectares. Alors c'est vrai que pour nous, c'est compliqué. Mais je ne désespère pas. Peut-être qu'un jour, on trouve un projet avec un partenariat, voilà, public-privé, qui nous permette de réhabiliter ce site, peut-être en musée de l'olympisme, ou que sais-je. Hein, les idées peuvent être nombreuses.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Fâche d'un homme par la part de Grenoble.
Pour nous écrire.
Que des prétentieux, tu vois. Des sportifs, ça va tanker à Grenoble.
C'est pas du vent, @RFI.fr.
À Grenoble, chaque boulevard, chaque rue percute la montagne.
Pour Mountain Wilderness France, l'association internationale de protection de l'environnement, ces installations obsolètes sont des cicatrices qui dénaturent le paysage. Encore aujourd'hui, des opérations de nettoyage sont menées par des bénévoles dans les massifs alpins qui ont accueilli les JO. À l'occasion du cinquantenaire qui sera célébré en février prochain à Grenoble, l'association va en profiter pour faire le point sur ces JO de 68, Vincent Nérinck est co-directeur de l'association.
Écrire l'histoire de ces équipements, ça nous semble important, d'autant plus qu'elle se perpétue. Je veux dire, chaque édition des Jeux Olympiques d'hiver génère des installations inutiles qui deviennent obsolètes très rapidement. J'allais dire Jeux Olympiques d'hiver, mais c'est vrai pour l'été aussi. Faites un tour sur Internet et tapez installation abandonnée Jeux Olympiques. Vous allez voir des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages de photos. Chaque Jeux Olympiques d'hiver, on reconstruit un tremplin de ski dont personne ne fait rien le reste du temps et qui finit de la même manière que celui de Saint-Nizier.
Ce soir-là, fin février, les Jeux Olympiques de Sochi prennent fin et tous conviennent que ce fut une incontestable réussite en termes d'organisation. Mais l'envers de la médaille, c'est aujourd'hui. Bienvenue à Sochi, ex-village des athlètes, un terrain désormais vague qui se cherche un avenir. Officiellement, la moitié des équipements sportifs devaient être démontés et réinstallés ailleurs. Pour le moment, ils rouillent, déjà fermés. Le village olympique, c'est 30 000 chambres d'hôtel et zéro client.
Il y a la question des coûts aussi, qu'on va essayer d'aborder un petit peu aussi, des gaspillages, parce que c'est pas neutre non plus, des gaspillages qui ont un impact sur l'environnement, parce qu'on aménage, on aménage, on suraménage. Nous, on a décidé qu'effectivement, ce serait l'occasion de faire un petit point, voire même un gros point sur ce qu'ont été ces JO, sans taper sur le fait qu'on commémore les 50 ans de Grenoble. Hein. C'était une autre époque et qui appartient maintenant à l'histoire. Je pense que maintenant, il faut en tirer les conséquences et on va y apporter notre pierre.
Mais cela n'a pas empêché Grenoble de rêver une fois encore l'olympisme, en témoigne la candidature avortée en 2008 pour les Jeux d'hiver de 2018. À défaut de les accueillir en février prochain, puisqu'ils se dérouleront en Corée du Sud, Grenoble se prépare donc pour un grand jubilé d'anniversaire. Pour Éric Piolle, premier maire écolo de France, il était inconcevable de ne pas revenir sur cette histoire. Mais l'actualité de Paris 2024 obligeant, il se demande si ce n'est pas l'occasion de re-questionner le modèle olympique d'aujourd'hui.
C'est sûr qu'il faut transformer les Jeux. Hein. Avec clairement, à mon sens, ce qui se dégage pour les Jeux d'hiver, il faut maintenant arrêter de trouver en permanence des nouvelles stations. On fait des cimetières à équipement, et on pourrit de la montagne dans des grandes largeurs. Alors qu'il y a aujourd'hui des stations qui peuvent accueillir, on peut en choisir 6-7, hein, ça fait tourner tous les 30 ans, et puis on tourne, on garde la dimension internationale, intercontinentale, on regarde comment utiliser l'équipement que l'on a déjà plutôt que de continuer à aller dans des projets qui sont délirants. À Paris, il y a à la fois une question qui est plus structurante française, ce qui est de dire que nous avons une capitale qui est surdimensionnée hein, par rapport à d'autres pays. On voit bien qu'en termes d'équilibre du territoire, ça attire beaucoup. Donc on aurait pu réfléchir à voir comment on pouvait s'en servir pour aménager un peu plus de territoire. Après, l'enjeu sera comme d'habitude. Le budget, il est annoncé à Londres, il a triplé. Comment faire pour ne pas les faire exploser? Les émissions de CO2, en prenant les choses sérieusement. Pour l'instant, on voit que la candidature, elle commence à aborder ces questions-là, mais elle le fait avec un prix de la tonne de CO2 à 20 euros, alors que déjà, les objectifs du mandat de Macron, dont on peut aujourd'hui questionner le niveau d'ambition, c'est de finir le mandat à 44 euros la tonne. Donc on voit bien qu'il faudrait faire un facteur 3 au moins pour 2024. Ces questions-là sont fondamentales. Et puis aller chercher un peu plus loin le modèle sur les dimensions de pub, de cette surexcitation commerciale, pour revenir à la dimension de partage culturel. Pour beaucoup, les Jeux Olympiques, c'est la corruption pour l'attribution des Jeux, le dopage et des gouffres financiers. Donc si on pose la question comme ça, on voit bien qu'il faut aussi qu'on interroge le modèle des Jeux Olympiques. On n'est pas si mal placé que cela pour le faire.
Le 6 février prochain, donc, Grenoble accueillera les Jeux internationaux de la jeunesse avec 25 pays représentés, offrira un palais des sports remis en glace et invitera les Grenoblois à se saisir de leur histoire.
Ce sera chouette les Jeux Olympiques. Tous ces athlètes dans la foulée pour un marathon fantastique à la seule force du mollet. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, si nom de Dieu il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, qu'à quatre des frontières. Leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire.
Paris
va accueillir les Jeux Olympiques en 2024. On s'en réjouit ou panique, c'est à voir. Didier Le Hénaff, je rappelle que vous êtes le président de Sansi, une ONG qui développe donc le lien entre sport et développement durable. C'est une association qui réunit les plus grandes fédérations sportives. Il y a donc une volonté de limiter l'impact sur l'environnement. Le Comité international olympique fait partie de votre association ?
Alors, il n'en fait pas directement partie, mais il était représenté au congrès inaugural de notre ONG. Pour une raison bien simple, c'est que le CIO a développé un programme de durabilité depuis quelques années maintenant. L'environnement est le troisième pilier de l'olympisme et la politique est de plus en plus prégnante dans ce secteur. Et aujourd'hui, les candidatures à l'organisation des Jeux Olympiques, quels qu'ils soient, doivent avoir un volet environnemental très très développé, ce qui n'était absolument pas le cas dans le passé. Donc le CIO, qui ne peut pas tout gérer, puisque le CIO gère avant tout les candidatures olympiques, les fédérations internationales et les comités nationaux olympiques, entre autres, tout le reste, c'est-à-dire les millions d'organisations qu'il y a à travers la planète, toutes les fédérations au niveau national, etc. S'ils ont la possibilité d'avoir de la main-d'œuvre, de l'aide pour venir à leur secours, ils vont l'accepter. Donc Sansi fait partie de ces acteurs incontournables aujourd'hui dans le paysage qui permettent de prendre le relais là où le CIO ne peut pas ou ne veut pas intervenir.
Mais donc vous diriez par rapport au reportage que nous venons d'entendre à Grenoble qu'en 50 ans, les mentalités ont bien évolué ?
Ah, complètement. En fait, je trouve ce reportage magnifique parce que il faut être très attentif quand on l'entend. Effectivement, il faut se repositionner dans les problématiques de l'époque. C'est-à-dire, on est dans les logiques des Trente Glorieuses, il y a eu les chocs pétroliers qui sont passés par là, il a fallu réapprendre à vivre de manière totalement différente. L'économique l'a emporté sur tout le reste sous un angle sur l'environnemental et le social d'une manière dure, complètement débridée aujourd'hui. Donc, on ne parle plus du tout de la même chose, quoi. Ceci dit, on retrouve des constantes. Effectivement, quand on parle de Grenoble et de Sochi, je vais pas faire un parallèle exact, mais on a fait naître à Grenoble des choses assez extraordinaires, assez grandes, complètement en décalage avec le grand village qui était Grenoble à cette époque-là. On a vécu bien pire avec Sochi, avec les Jeux Olympiques d'hiver, où il n'y avait absolument rien sur Sochi. On en a fait une espèce d'immense éléphant blanc. Donc, on peut à la fois comparer et pas comparer et les périodes et les candidatures entre elles, parce que c'est juste des univers très différents.
Alors, le comité d'organisation a annoncé que les Jeux de Paris en 2024 seront les plus écolos de l'histoire, je le disais tout à l'heure. Alors, je cite Anne Hidalgo, la maire de Paris. Elle a dit « Ce sera magnifique. Dans les gymnases en 2024, nous récupérerons l'énergie des spectateurs et des sportifs pour alimenter l'éclairage ou le chauffage. Dans les rues, nous nous déplacerons avec des navettes électriques sans chauffeur. Nous pourrons aussi nager dans la Seine et ses canaux. Ce sera une ville où on vivra, où on respirera et où on se déplacera mieux. Génial !»
Vous voulez que je commence sur cet
enjeu? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez je crois de cette déclaration extrêmement enthousiasmante?
Mais en fait, voilà, mais là vous avez cité le mot-clé, c'est-à-dire l'enthousiasme. Ce qui a pêché dans les candidatures françaises dans le passé, c'était le manque d'enthousiasme. C'était guindé, c'était étriqué, etc. Et là, on a senti, moi c'est une des choses qui m'ont particulièrement ému dans la candidature de Paris, c'est le fait que tout le monde avait envie d'y aller, quoi. Et quand je dis tout le monde, les athlètes en premier. On vit dans un monde très politisé, je ne parle pas du sport, enfin le sport aussi, mais de manière générale, très hiérarchique, très vertical, etc. Et quelque part, les athlètes ont pris le pouvoir sur la candidature de Paris et aux Jeux 2024. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'on a des possibilités sur le plan technologique aujourd'hui qu'on n'avait pas dans le passé. C'est-à-dire que c'était de la science-fiction, tout ce qu'on vient d'entendre, là, ces phrases merveilleuses d'Anne Hidalgo, c'était de la science-fiction il y a quelques années. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a dit ça, oui, il y a des tonnes de choses qu'on peut faire, d'autant plus que le terrain s'y prête. C'est-à-dire que Paris, sa région et la France sont des pays qui accueillent plus facilement la technologie, ce type de switch à la fois politique, social et environnemental que beaucoup d'autres pays.
Enfin quand même quoi, 17 000 athlètes, 60 000 journalistes, 3 millions de visiteurs.
Alors, l'impact va être là. Mais
les infrastructures sont là.
Voilà, donc il y a plusieurs aspects.
90% c'est ce qui
voilà.
est mentionné.
En fait c'est entre 80 et 90% suivant si on prend les temporaires, etc. Mais bon,
il faut construire quoi le village des athlètes.
Le village des athlètes, le centre aquatique, oui. Le centre aquatique et le village des journalistes. Enfin, le centre de presse, qui vont être reformatés derrière pour être des habitations, des logements sociaux, etc. Donc, il n'y a pas d'éléphant blanc à ce niveau-là. Alors que, vous voyez, le désastre de Sochi, le désastre de Rio, à ce niveau-là, ça fait de la peine. Et c'est écœurant, c'est obscène, pour être très clair. Parce que, bon, là, le Brésil, problème de santé, problème d'éducation, problème de transport, criant, très fort, qui font mal. Et il y a eu des milliards et des milliards qui ont été engloutis dans des structures qui ne sont pas du tout rentabilisées.
On peut se poser la question, vous vous, par exemple, avec votre association SVP Planète et puis le fait que vous défendiez ce que vous appelez les éco-games, c'est-à-dire une autre façon de penser les compétitions internationales. Est-ce que c'est nécessaire encore aujourd'hui au 21e siècle de faire des grands raouts comme ça? Est-ce qu'on pourrait pas faire, je sais pas moi, des compétitions par continent et puis ensuite on fait rencontrer les meilleurs de chaque continent? Mais est-ce qu'on est obligé encore de faire venir autant de gens avec autant de sponsors, autant d'argent?
En fait, il faut bien dissocier les pratiquants et les spectateurs, parce que l'impact environnemental du sport et des événements culturels en général, c'est les spectateurs, c'est pas les participants. Ce sur quoi je voudrais insister concernant la candidature de Paris, c'est que non seulement, c'est que la candidature est très compacte. C'est-à-dire que tout se déroule dans un rayon très très faible, ce qui fait que localement, les déplacements vont se faire par les transports en commun. Alors que Los Angeles, c'est pas le cas. C'est juste pas possible, quoi. Autre point, Paris, c'est très central dans le monde. C'est-à-dire que l'Europe jouit d'un réseau ferroviaire extraordinaire qui fait qu'on peut venir en tant que spectateur de tous les coins d'Europe par voie terrestre et par voie du rail. Ce qui n'est absolument pas le cas à Los Angeles. Alors, on n'est plus là pour opposer Paris et Los Angeles parce que, en l'occurrence, ils se sont associés maintenant plutôt qu'à des concurrents. Mais voilà deux éléments très importants par rapport à la problématique des transports. Deuxième point qui est très important, c'est l'impact donc des constructions, donc de toutes les infrastructures sportives. Tout est construit ou presque. Donc l'impact va être énorme, enfin va vraiment être moindre par rapport à des candidatures comme Coupe du Monde de football au Brésil ou Jeux Olympiques à Sochi. Et point numéro 3, qui est un point qu'on a mis sous silence, c'est l'énorme travail qui a été fait sur le plan environnemental pour rassembler des acteurs qui œuvrent dans le champ environnemental pour trouver des solutions pour minimiser l'impact global.
Donc on aura le temps, en tout cas d'ici 2024, de scruter tout ça. On compte sur votre vigilance, on vous réinvitera régulièrement.
C'est vraiment l'objectif, d'être très très vigilant quoi qu'il arrive.
De voir si les engagements de JO les plus écolos de l'histoire seront tenus. Merci beaucoup Didier Lénave d'être passé dans C'est pas du vent. Pour réagir à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, hashtag C'est pas du vent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain. Même planète, même heure.